Bienvenue dans les chemins de l'ergothérapie, issu du collectif Occupe ton ergo. C'est une émission qui vise à rendre la littérature en ergothérapie et en sciences de l'occupation plus accessible. Pour cela, je prends un article relié à l'ergothérapie et ou aux sciences de l'occupation. Je vous en parle et je vous dis aussi ce que j'en ai pensé, les liens avec la pratique de l'ergothérapie, l'évolution de la profession et des professionnels que j'y vois. Je suis Clémence et je vais vous parler de l'article publié en 1993 par Anne Wilcock dans le Journal of Occupational Science qui s'intitule « A Theory of the Human Need for Occupation », c'est-à-dire une théorie sur le besoin occupationnel de l'humain. Si j'ai choisi cet article, c'est déjà que les théories sur l'occupation m'intéressent beaucoup. Qu'avec les séries précédentes et aussi l'évolution de la société, l'évolution de la pratique et des réflexions, je sens bien qu'on a besoin de s'appuyer sur plus de savoir, sur cette théorie. Il y a aussi un intérêt grandissant, je trouve, sur cette théorie de l'occupation. Mais parfois, et ça je pense que c'est aussi à l'échelle d'une science, on est jeune. Et quand je dis « on », c'est pour parler de science de l'occupation. Donc, comme on est jeune et plein d'enthousiasme, parfois on brûle des étapes, on manque de rigueur, et certains concepts deviennent protéiformes, et on ne sait plus toujours de quoi on parle. Et moi, dans tout ça, déjà, j'aime bien comprendre les choses. Et ensuite, j'aime bien le cadre pour évoluer librement. J'aime bien savoir où sont les limites de la pratique. Donc, voici cette petite série pour vous accompagner jusqu'à l'été. Cet article est vieux, 1993. Mais c'est l'idée aussi de comprendre et de construire, ou plutôt de rendre visible le cadre. Il faut aussi faire un peu d'archéologie pour rendre visibles les fondations. Donc, Anne Wilcock, j'en ai déjà parlé. C'était une ergothérapeute anglaise de formation qui allait en Australie, qui avait une thèse en santé publique en même temps que sa rencontre avec IARCSA et la naissance des sciences de l'occupation. Puis, elle a beaucoup développé autour de l'occupation comme déterminant de santé. Le JOS, Journal of Occupational Science, c'est un journal que Wilcock a cofondé et qui traite d'occupation quel que soit l'angle d'approche. Il n'est pas nécessairement centré sur les ergothérapeutes ou sur l'ergothérapie. Pour publier, il n'est pas nécessaire d'être ergothérapeute. Mais je suppose que c'est en majorité le cas. En fait, il suffit de parler d'occupation et du lien entre l'occupation et la santé dans le JOS. C'est une revue entièrement anglophone et les articles ne sont pas toujours en libre accès. C'est aussi et surtout un journal de référence lorsqu'on s'intéresse aux occupations. En ce qui concerne l'article de ce podcast, il est accessible et le lien est dans la description. Passons donc maintenant au contenu de cet article. Ah, une dernière chose. L'article est issu de la première parution du JOS. Il s'appelait alors Occupational Science Australia. Quand je dis que je fais de l'archéologie, on remonte vraiment aux fondations. Et cet article va aborder la question de l'occupation comme expérience centrale pour l'humain. Centrale car essentielle à sa survie, son bien-être, son épanouissement. Toutefois, la complexité de notre société nous fait parfois, souvent, perdre cette perspective. L'introduction commence par une citation d'un livre qui dit, et je vous le traduis, « C'est le mélange unique de la biologie et de la culture qui fait de l'Homo sapiens, une espèce animale vraiment unique. Les humains sont différents, pas tant pour ce qu'ils et elles font, mais plus parce que nous pouvons faire plus ou moins ce que nous voulons. » C'est une citation de Leek et Lewin dans People of the Lake, Men, Origins, Nature and Futures. L'occupation est ce qui fait sens, nous dit Wilcock dans son introduction. C'est l'élément central de l'expérience humaine. En développant une théorie sur les besoins occupationnels de l'humain, il est nécessaire de rendre compte de l'évolution des occupations et des comportements occupationnels, autant au niveau biologique que socioculturel. Cet article s'appuie sur une étude des comportements occupationnels de l'humain au travers de l'histoire. Mettre en évidence comment la conception, la façon de faire est unique et motivée par des valeurs socioculturelles, des croyances, des besoins de s'engager dans ce qui a du sens, qui est inné et associé à la santé et à la survie. tous les animaux ont des caractéristiques spécifiques qui leur permettent de survivre. Cela dépend des espèces et les habiletés développées sont très variables. Beaucoup d'animaux ont des compétences que l'on pensait autrefois réservées aux humains. La communication, la logique, le raisonnement complexe, même l'attachement. La différence entre les espèces se trouve dans le niveau, dans le degré des capacités. La différence entre les humains et les autres espèces, c'est un peu la taille du cerveau. C'est cette grande taille en raison du développement des cortex qui ont conduit à autant de complexité dans la communication, dans la réflexion, dans le jugement et le développement moral, l'adaptation. Ces hautes compétences cognitives ont également permis le développement de la conscience, ainsi que la capacité à relever des défis et à s'ajuster en fonction des environnements et des dangers. Ces différents niveaux de capacités cognitives sont centrales dans la nature de l'humain, qui doit survivre, poursuivre leurs occupations, car ils et elles sont libres de certaines contraintes, leur permettant de s'engager au quotidien dans des occupations nouvelles, engageantes, d'aventure ou non. Les personnes sont capables de s'engager dans des activités qui ont du sens pour elles-mêmes, de prendre en compte les effets que produit cette activité, de produire un plan d'action, d'y réfléchir et d'avoir un regard critique pour modifier la façon de faire. Les enfants, au travers du jeu, occupation prédominante à cet âge, apprennent des compétences pratiques qui leur permettent d'interagir, de choisir un rôle futur, de se développer selon un environnement, une culture. Les occupations offrent un mécanisme, un fonctionnement pour les interactions sociales, le développement sociétal, la construction des identités. Wilcock en vient même à citer Marx, qui dit que l'histoire n'est rien que l'activité des humains poursuivant leurs aspirations. Les occupations sont aussi le fruit des aspirations collectives. Et ces occupations, fruits des aspirations collectives, mettent en évidence la façon dont les personnes s'organisent pour faire aboutir leurs projets via les occupations et la planification. Là où Marx et Hegel parlent du travail comme un acte d'auto-création. Marx a fondé beaucoup de sa philosophie sur l'idée que le travail est une activité collective, créative, faisant partie de la nature humaine. En tant que personne qui s'engage dans des occupations pour maîtriser son environnement, améliorer les opportunités de l'humain, le bien-être et la survie, l'environnement social en devient altéré. La plus sophistiquée des occupations change l'environnement, change les personnes. Les personnes sont autant créatrices qu'actrices de leurs occupations, que façonnées par elles. L'idée n'est pas que l'occupation est seulement une fonction de l'être humain, lui permettant d'être en relation avec le monde. Il faut aussi comprendre, d'un point de vue biologique, le besoin humain de faire. Ce besoin est d'autant plus visible dans nos sociétés post-industrielles où nous avons développé un nouveau regard et de nouveaux besoins. Considérer les humains comme des êtres occupationnels implique que chacun et chacune ait besoin de s'engager dans des occupations pour s'épanouir. Wilcock aborde donc ici, dans son article, les besoins biologiques. Les besoins biologiques sont aujourd'hui enfouis sous de nombreuses années de valeurs, de cultures qui se succèdent et qui nous ont conduits actuellement à avoir perdu toute ou une partie de nos besoins fondamentaux. De l'écoute de nos besoins biologiques pour vivre ou survivre. Quand Wilcock dit ça, je pense notamment à la façon dont nos cultures ont conditionné notre alimentation, valorisant plus ou moins la consommation de viande, plus pour des questions de culture et de valeurs que pour des besoins biologiques. Cela vient d'une certaine négligence, du choix scientifique délibéré de séparer les disciplines, et dans le cas présent, la biologie de la sociologie. C'est une séparation, somme toute cartésienne, qui divise le corps et l'esprit, le corps et le comportement, et cette division, ce débat, tend à se rassembler dans quelques disciplines telles que la sociologie, l'ergothérapie. Les mécanismes biologiques ont pour objet d'assurer la survie. C'est quelque chose de commun à tous les animaux, humains, non humains. Cette idée de besoin comme une variable centrale pour la motivation, pour agir, pour la survie, est récente et remplace l'idée d'instinct, qui a une composante innée, non apprise. Beaucoup de théoriciens et théoriciennes sur cette idée du besoin ont été influencés par des découvertes de la physiologie. La physiologie, c'est le fonctionnement normal du corps, des échanges biologiques. Donc, cette découverte de la physiologie a induit une compréhension de la régulation du corps au niveau organique, mais pas complètement distinct du monde extérieur et social non plus, des comportements et des déterminants agissant sur le corps pour son fonctionnement normal. Cette compréhension conduit à prendre en compte le besoin, pas seulement comme une façon d'équilibrer, de rééquilibrer, de corriger, mais aussi comme un moyen pour faciliter la vie des organismes et leur permettre de grandir et de s'épanouir. Avec cette perspective, les besoins biologiques sont vus comme des agents de santé en devenir, qui voient l'organisme comme un tout en interaction avec l'environnement. Dans cette perspective, il n'y a pas de distinction entre le physique, le mental, le social et la façon dont nos sociétés modernes, ou les disciplines telles que la médecine et la psychologie ou la sociologie agissent dans un tel processus. On retrouve alors une hiérarchie biologique reliée à des structures et à des fonctionnements en collaboration avec le rythme biologique et le besoin d'homéostasie. En utilisant un modèle pour aider la compréhension, le fonctionnement et les feedbacks, les retours qui existent, on se rend compte que les besoins ont trois rôles pour maintenir la stabilité et donc la santé d'un organisme. Ces besoins servent à alerter lorsqu'un problème arrive. Ils servent aussi à protéger et prévenir des désordres possibles. Et pour finir, les besoins biologiques servent à récompenser rapidement via l'épanouissement, la satisfaction. Quand c'est une question d'alerte, c'est face au danger ou à un inconfort, un besoin d'agir. Ce sont aussi des situations de faim, de solitude, de froid. Lorsque c'est pour prévenir et protéger, les besoins vont être sollicités pour fournir plus d'énergie, développer des idées, des pensées, des solutions. La troisième catégorie de récompenses rapides est souvent jugée comme le point central de la survie, car correspond aux besoins de sens et de plaisir. Et le plaisir est reconnu comme un puissant besoin humain dès Aristote. Ces trois catégories de besoins sont structurées physiologiquement pour donner de la motivation et un retour. Petit exemple, quand on est dans une situation, prenons l'ennui, notre corps alerte du problème. On n'est pas bien. On n'aime pas, on ne sait pas trop quoi dire, on n'est pas confortable, c'est l'ennui. Notre corps nous interpelle pour agir, alors on agit. On est dans la phase de protection et de prévention. Notre corps mobilise de l'énergie pour tourner en rond, pour faire des choses, trouver des idées. Cela va se répercuter sur l'inconfort, soit en allant mieux, soit moins bien. Puis la phase de récompense agit. Dit à notre corps si on prend l'action, si on conduit, si ça conduit à de la satisfaction ou non. Et cette boucle recommence. Fondée sur ces notions de besoins biologiques et d'exploration des occupations humaines, à l'aube de l'évolution, un modèle a été construit pour rendre compte de la place du sens dans l'occupation, pour maintenir et promouvoir la santé des individus et la survie des espèces. Ainsi, trois fonctions majeures de l'occupation sont identifiées. Premièrement, fournir immédiatement au corps les besoins nécessaires à sa subsistance, son soin, son refuge, un abri, sa sécurité. Ensuite, développer des compétences, une structure sociale, la technologie, afin d'assurer la sécurité face aux prédateurs et à l'environnement. Et en troisième, l'occupation a une fonction d'exercice personnel, de développement personnel, dans des capacités pour maintenir l'épanouissement. Il est donc OK que les comportements occupationnels, dès le début de l'humanité, avec les chasseurs, cueilleurs, chasseuses, cueilleuses, étaient orientés vers les besoins primaires de survie de l'espèce. Beaucoup plus que ça ne l'est de nos jours, par exemple. Car, à cette époque, il était aussi moins affecté par la culture acquise, les connaissances, les valeurs et les comportements. Dans une société de chasseurs, cueilleurs, chasseuses, cueilleuses, le comportement occupationnel était majoritairement orienté vers le rassemblement de provisions. Cette structure occupationnelle les a conduits à comprendre et à apprendre sur les environnements pouvant répondre à ces besoins. Les personnes étaient alors aussi capables de s'adapter, de changer d'environnement pour pouvoir répondre à ces besoins. Il semblerait même que les humains, à l'état de nature, à l'état primitif, avaient la capacité de répondre adéquatement à leurs besoins de santé, chose que l'on a perdue avec la civilisation. Wilcox s'appuie pour dire cela sur le niveau de santé et de bien-être retrouvé dans les tribus primitives. Leur façon de vivre semblait en adéquation avec leurs besoins de santé. Les occupations technologiques et les structures sociales ont apporté une plus grande sécurité, une supériorité envers les prédateurs, mais cela a aussi modifié l'équilibre des choses et l'environnement, tel que la surexploitation des ressources naturelles. À partir de ces structures sociales plus simples que sont les tribus primitives, nous sommes devenus, avec nos occupations, les évolutions techniques et technologiques, dominants. Et nous entretenons notre force et notre supériorité. La plupart des personnes semblent accepter cette évolution et cette croissance des besoins en s'éloignant de l'omniprésence des besoins fondamentaux. En fait, les besoins des personnes sont devenus insignifiants face au besoin de créer une technologie de plus en plus sophistiquée, de créer une société plus structurée qui n'a plus de lien avec l'écologie finalement. Développer ses propres capacités pour pouvoir maintenir et développer son organisme est le plus primaire des besoins, mais aussi la moins appréciée des fonctions de l'occupation humaine. L'organisme a besoin d'être actif pour être en bonne santé. En d'autres termes, les capacités ont besoin d'exercice pour garder une homéostasie et une santé. Développer les capacités à penser, à résoudre des problèmes, anticiper et agir selon des buts. Depuis des millions d'années, c'est ainsi que fonctionne l'humain, avec les changements occupationnels et les buts induits par la culture. Les évolutions spécifiques de ces derniers siècles, l'équilibre dans l'utilisation des capacités a été compromis, et donc cela menace la santé et la survie de l'espèce. Après cette perspective biologique, Wilcock aborde les facteurs socioculturels. Ces éléments sont parfois difficiles à distinguer des besoins biologiques ou des éléments sociaux et culturellement acquis. Il y a une question d'adaptation, de développement des capacités cognitives et intellectuelles, qui fait partie de l'évolution récente de l'humain. La première expression de cette évolution socioculturelle, c'est la capacité à formuler des besoins acquis. Les besoins biologiques et acquis fonctionnent de pair. Cependant, on peut dire que les besoins biologiques se sont concentrés en vue de développer les structures sociales et culturelles nécessaires. Les capacités humaines, intellectuelles, cognitives et culturelles se sont engagées au travers des occupations à satisfaire les trois fonctions précédemment citées, c'est-à-dire fournir immédiatement au corps des besoins nécessaires, développer des compétences et une structure sociale, puis développer et maintenir un épanouissement. De ce point de vue, l'humain est une espèce très douée pour survivre. Dans nos pays post-industriels, les moyens développés pour fournir au corps les besoins nécessaires, éviter l'inconfort et les douleurs sont particulièrement développés et sophistiqués. Pas besoin de chasser, on va au supermarché. Pas besoin de moudre du pavot, on va à la pharmacie. Donc, tout cela pour poursuivre un but et un bonheur. Le cerveau humain a été capable de s'adapter et de construire un environnement social différent, signant ainsi l'évolution des besoins et des buts des êtres humains. La capacité d'adaptation dans un environnement socio-culturel permet aux enfants, très tôt, d'assimiler et de retenir les informations sur leur environnement avant même de conscientiser la signification de cet environnement. Cette absorption précoce des comportements fait partie des attentes socioculturelles. Il suffit de voir les réflexions, les pensées qu'on a quand, à partir d'un certain âge, un enfant ne correspond pas vraiment aux attentes sociales. Imaginons un carré familial de la SNCF. Les attitudes, tout comme les comportements, sont absorbées et adoptées se construisent avant les capacités intellectuelles. Ce sont des éléments présents et particulièrement utiles lorsque l'on revient en arrière et que l'on pense à la survie de l'espèce. Ce besoin d'absorber les comportements protecteurs, les comportements sociaux qui garantissent la survie. Il est encore aujourd'hui nécessaire pour encourager et développer les capacités cognitives, mais aujourd'hui ces éléments ont finalement peu de lien avec la santé. Aujourd'hui la survie et le développement du nourrisson s'inscrivent dans un environnement socioculturel, matériel. On va même jusqu'à demander aux enfants de cacher leurs besoins biologiques, physiologiques, tels que bâiller, se gratter, bouger, car ils vont à l'encontre de règles socioculturelles dans notre environnement actuel occidental. Par conséquent, les alertes associées aux besoins biologiques sont réduites, voire supprimées, au profit des attentes sociales. On va manger ou non en fonction de l'heure, pas forcément en fonction de notre ressenti. Avec cette vision, des sociologues ont développé l'idée que les actions humaines sont limitées ou déterminées par l'environnement passé et présent, et que les humains sont à la fois le produit et les victimes de leur société. La complexité des occupations s'est fait de pair avec l'évolution et la complexité de la société. Les changements de la société peuvent facilement être observés via les évolutions techniques et technologiques des occupations, le besoin intellectuel et les défis imposés par l'environnement social et écologique. L'utilisation du temps est une question d'ampleur, car il rythme et il organise notre quotidien. Chaque jour, les personnes réalisent une multitude d'occupations, dans un contexte spécifique, ce qui induit du stress, de la pression, ce qui modifie les valeurs. La complexification des occupations est une réponse culturelle à notre situation actuelle, dans laquelle il est difficile de maintenir sa santé, et des comportements et des occupations orientés vers la santé et le bien-être, quand la société nous presse et nous stresse. Cela interroge la structure de l'occupation, l'environnement social et l'agenda politique qui soutient cette structure, permettant aux personnes d'accéder à des opportunités occupationnelles. Les compétences et capacités humaines doivent être orientées vers des buts, que sont les besoins biologiques, notamment. Sans cela, l'individu ne répond pas à ses besoins et en vient à souffrir et avoir une atteinte de sa santé, quand bien même les personnes s'engagent dans des occupations. La technologie a notamment modifié nos occupations pour les orienter vers la production, plus que pour répondre aux besoins biologiques. Dans le même temps, la prolifération des occupations possibles et des choix d'occupations possibles requestionne nos opportunités et nos besoins occupationnels. La restriction occupationnelle est le résultat de nombreux facteurs, tels que le manque de temps, de matériel et ou de ressources. On voit donc apparaître des désavantages occupationnels très tôt, en raison de la situation socio-économique des personnes. Les modifications structurelles qui modifient notre façon de nous engager correspondent, par exemple, nous dit Wilcock, à la restriction de liberté et à l'augmentation des règles et des réglementations, ou la technologie qui modifie les façons de travailler. Tout cela sont des choix politiques qui ont des répercussions sur les opportunités et l'engagement occupationnel. Les humains sont des êtres occupationnels qui ont besoin de s'engager dans des occupations qui font sens et qui répondent à des besoins pour se développer et s'épanouir. L'humain est aussi un être d'adaptation qui a su, au fil du temps, s'adapter et vivre dans un monde socio-culturel où la structure s'est complexifiée. Et cette complexification a de nombreuses implications et répercussions sur la façon dont l'être humain, en tant qu'être occupationnel, s'engage et arrive plus ou moins à répondre à ses besoins en vue de son développement, de son épanouissement, et pour lesquels il est donc nécessaire de développer des connaissances. L'article est terminé. Passons aux remarques. Cet article est interpellant. En tout cas, moi, il m'interpelle. Il y a différents éléments. Prenons les choses un peu classiques. C'est un article de 1993. C'est la première parution de Occupational Science Australia, aka Journal of Occupational Science maintenant, qui souhaite un peu poser les bases de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi cette nouvelle discipline. Et pour ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas un article qui montre une étude scientifique, c'est vraiment un article qui essaye de nous inscrire dans un mode de pensée, dans une réflexion. Et je trouve que ça permet bien d'appréhender où est-ce qu'on se trouve quand on parle d'occupation. Un élément que je pourrais reprocher, c'est qu'il y a énormément de citations. Et c'est quelque chose que je reproche assez souvent, par exemple dans les travaux des étudiantes, quand il m'arrive de corriger les travaux des étudiantes. Il y a plein de copier-coller, finalement, d'autres textes, et je trouve que ça gêne vraiment la compréhension. Je comprends pourquoi c'est fait, mais je trouve quand même que ça gêne un peu la compréhension générale du texte, ou en tout cas la lecture. Et il y en a beaucoup dans cet article. Il y a peut-être quelque chose un peu difficile aussi à appréhender dans cet article, c'est qu'il y a un changement d'échelle. On a l'habitude de penser quand on est ergothérapeute, de penser au niveau individuel ou alors au niveau du groupe, éventuellement, en termes de communauté et de choses comme ça. Là, Wilcock, elle nous propose de penser à l'échelle de l'espèce, l'espèce humaine en tant qu'espèce d'occupation. C'est un effort supplémentaire et je comprends qu'on ait du mal à faire du lien avec l'ergothérapie. Et moi, ça m'interroge même sur quel est le lien avec l'ergothérapie. Je le vois, je le sais, mais penser l'occupation n'est pas penser l'ergothérapie. Et cet article le met vraiment en évidence. C'est pas parce qu'on étudie l'occupation humaine qu'on va forcément pouvoir l'appliquer telle quelle à l'ergothérapie. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette, et c'est de 1993. Donc il y a vraiment une école de pensée à approfondir, à aller chercher peut-être un peu plus loin. Revoir ce qu'ils en disent, comment ça a évolué depuis que Wilcock a pu dire ça. Il y a dans l'article l'idée qu'on a perdu l'écoute de nos besoins, qu'on n'est plus à l'écoute de ce que vraiment sont nos besoins fondamentaux. Et je trouve ça très intéressant. L'article date de 1993, mais je trouve ça encore très actuel, si ce n'est plus. Et ça me fait par exemple penser à toutes les sciences parallèles, alternatives, toutes les idées de développement personnel qui nous invitent à nous reconnecter à notre nous intérieur, à repenser quels sont nos besoins, quelles sont nos priorités, de quoi vraiment on va se nourrir. En dehors de l'aspect parfois un petit peu ésotérique, ou alors très développement personnel et psychologique, il y a aussi cette idée de repenser est-ce que là je suis fatiguée, est-ce que j'ai juste besoin d'arrêter de travailler ? Et je m'écoute, j'écoute mon corps quand il me dit que je ne suis plus en capacité cognitive d'avancer, que ça ne sert à rien de rester au travail dans ces conditions. Est-ce qu'on écoute ? Est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on n'a pas perdu ce besoin pour une productivité, pour faire plus ? Et à quel moment les valeurs sociales et culturelles encouragent cet aspect et nous font du mal ? Ce qui m'amène à un point que je voulais aborder, que je trouve très intéressant, et puis de toute façon il est dit, donc c'est vraiment pas mettre les pieds dans le plat, c'est l'aspect politique de cet article, l'aspect politique de l'occupation. Je pense qu'à partir du moment où Wilcock utilise les propos de Marx, on est dans une perspective politique, on est dans un engagement idéologique spécifique qui nous invite à penser l'occupation dans ce cadre-là. Et cette idée d'être à l'écoute de ses besoins, d'être dans une société qui ne nous permet pas d'être à l'écoute de nos besoins, conduit forcément à une critique politique de la société. Et c'est intéressant parce que l'article dit aussi qu'en augmentant notre protection, on a augmenté des structures sociales pour se protéger. Et les structures sociales sont aussi celles qui parfois excluent. Donc, vraiment, pour moi, les sciences de l'occupation sont éminemment politique, parce qu'on va vraiment interroger ce que les gens font, pourquoi ils les font, comment ils les font, et ce que ça dit d'eux, et comment la société nous permet ou pas de faire des choses. Et là, on voit aussi qu'on s'éloigne de l'ergothérapie. Est-ce que l'ergothérapie est politique ? Je ne sais pas. Je pense qu'on pourrait se poser la question clairement. Qu'est-ce que c'est qu'être politique ou pas ? Qu'est-ce que c'est que de prendre position ? Qu'est-ce que c'est de rendre politique un sujet ? L'ergothérapie est souvent engagée pour la promotion et la défense des droits des personnes en situation de handicap. Quand on pense à l'inclusivité, à l'adaptation, à faire en sorte que tout le monde puisse accéder aux mêmes droits. Ok. Mais là, on n'est plus dans cette réflexion. Ou alors, on est au-delà de cette réflexion. On est vraiment dans une réflexion plus large de comment les structures sociales, comment la construction sociopolitique et socioculturelle font en sorte que certaines occupations vont être mauvaises pour notre santé. Et vraiment, de façon assez facile, moi je fais le lien, je ne sais pas si vous le ferez aussi, mais on peut faire des rapprochements avec des études féministes, avec les opportunités occupationnelles qui sont permises ou non à certaines populations, certains groupes de populations, en raison de leur genre, parce qu'il y a une des valeurs sociales, parce que la société a évolué, il y a des choses que les femmes ont plus le droit de faire qu'avant, mais il y a encore des choses pour lesquelles les droits sont... Mais il y a encore des choses pour lesquelles les femmes sont empêchées, non plus pour des questions de droits, mais pour des questions de valeurs et de culture et de structure sociale. Et ça, c'est de l'occupation. Ça, c'est étudier l'occupation. Mais on s'éloigne encore un petit peu de l'ergothérapie en tant que profession de santé qui allie l'activité humaine à la santé et qui s'intéresse aux personnes qui ont des troubles de santé pour leur redonner de l'autonomie et de l'indépendance. J'aime beaucoup toutes ces réflexions. Moi, j'aime beaucoup les sciences de l'occupation. Je pense que j'aime plus les sciences de l'occupation que l'ergothérapie. Alors, je vais peut-être continuer dans ce sujet-là. Pour conclure, merci à toutes et à tous d'écouter le podcast et de faire grandir le réseau. L'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et intéressé. N'hésitez pas à partager vos remarques, vos réflexions, vos commentaires, que ce soit en privé ou au travers des différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à partager et à nous aider à faire grandir le réseau. Le collectif Occupe ton ergo se veut semeur d'ergo réflexion. Alors, c'est aussi à vous de jouer. Et surtout, merci.